Le 1er mai 1945, au lendemain du suicide d'Hitler, le radio-reporter André Bourillon propose un étrange voyage aux auditeurs de la RTF.
Ce soir, nous vous amenons en Allemagne, dans cette Allemagne détruite et dont on foule avec plaisir le sol troué, déchiré.
Un voyage à l'esprit vengeur. Un voyage au milieu des décombres.
Installez-vous bien, la voiture a son plein d'essence. Mettons le moteur en route, en avant. Nous traversons Crète, Vitry-le-François, Cézanne, Toul, Nancy, Saverne, Strasbourg, et nous voici tout à coup en Allemagne.
Allemagne, année zéro. Les Alliés ont terrassé la bête.
Le décor a changé. Déjà les routes défoncées, les maisons en ruine. Nous remontons le Rhin jusqu'à Mannheim, ville rasée par les bombardements aériens. Nous descendons sur Heidelberg, ville épargnée par la guerre et où demeurent les grandes universités allemandes. Déjà les drapeaux blancs aux fenêtres et les gendarmes Bosch qui assurent la police de la route et qui vous octroient leur plus gracieux sourire. Puis c'est Stuttgart, ville détruite en grande partie, le cinquième à peu près par 401 bombardements. Nous arrivons à Dillingen, où nous allons traverser le Danube sans oublier de faire un vœu. Puis c'est Munich. Munich, capitale du nazisme, est en grande partie détruite. À toutes les fenêtres flotte le drapeau blanc de la reddition, le drapeau blanc de la honte.
Arrivé à Munich, André Bourillon croise une colonne d'âmes impatientes.
Là, à Munich, on rencontre des prisonniers de toutes nationalités. Des Français, des Russes, des Polonais, des Anglais et même des Américains, ils sont heureux et ne cessent de questionner. Alors, quand croyez-vous qu'on va nous rapatrier? On en a marre de rester dans ce bled.
En 1945, les prisonniers de guerre, mais aussi et surtout les déportés, vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Du moins, celles et ceux qui ont survécu à la forge hitlérienne. Quant à tous les autres, ils ont disparu dans la nuit du XXe siècle.
Derrière la volée triomphale, il y a partout un glas pesant qui teinte. Écoutons bien, c'est l'heure des funérailles. De ceux qui n'en eurent point, assassinés dans les chambres de torture, ou qui, dans tous les Auschwitz et tous les Buchenwald, sont partis en fumée.
...1945-2025, 80 ans après la capitulation allemande, la déportation et toutes ses victimes demeurent l'illustration de la sauvagerie nazie. Résistants, otages, juifs, homosexuels, tziganes ou condamnés de droit commun, les déportés constituent une longue cohorte bigarrée, dévorée par un monstre insatiable, l'univers concentrationnaire. À travers les destins croisés de trois déportés français, cette nouvelle série aspire d'abord à expliquer ce qu'incarne cette figure complexe qui hante l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'un déporté? Comment survit-on à cette expérience inhumaine? Et en quoi la déportation continue de frapper nos esprits? Pour répondre à ces trois questions, nous avons donc choisi de mettre en lumière trois parcours individuels. Celui d'Edmond Michelet, déporté catholique et gaulliste, celui de Gisèle Guimau, déporté communiste, et celui de Denis Kahn, déporté dite racial.
Vous êtes juif?
Dans un monde de plus en plus confus, dans un monde où les derniers survivants vont disparaître, les trajectoires de ces trois déportés doivent aussi nous rappeler ce que fut la réalité de la déportation dans leur vie. Et enfin, à travers les nombreuses archives à notre disposition et appuyées par une équipe d'historiens, il s'agit de décortiquer les raisons qui ont conduit le Troisième Reich, suppléé par le régime de Vichy, à mettre en place cette funeste mécanique.
L'antisémitisme est le ciment qui permet de nous souder.
Avec cette grande fresque documentaire en 8 épisodes, à nouveau, faisons de l'histoire.
À vous qui m'écoutez, auditeurs fidèles de notre radio libérée, nous souhaitons que ceux d'entre vous qui ont été sinistrés retrouvent bientôt un toit et un foyer, et que bien vite se cicatrisent les blessures et que se relèvent les ruines.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Déportés. Premier épisode, l'arrestation.
Nous pénétrons maintenant dans l'enceinte du camp que nous allons visiter en essayant de vous en dépeindre aussi sobrement que possible l'austère et l'atroce tableau.
J'ai vu, à l'entour de ce camp de Dachau, des rescapés au visage transparent se traîner vers le soleil et tomber sur la route.
L'immense cortège des ombres qui survivait encore se leva sur ses jambes flagellantes.
Le 15, vers 1h de l'après-midi, nous avons vu arriver la première voiture de radio qui nous annonçait en trois langues, français, russe et allemand, que le camp se trouvait désormais placé sous le contrôle britannique.
On n'avait même pas la force d'être heureux.
Mais tous ceux qui ont été libérés à Auschwitz ont une seule volonté, parler pour qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz.
Le récit débute fin novembre 2024 à Vichy, dans l'Allier. Martine Abbat, notre reporter, avait rendez-vous au pied de l'Opéra, un bâtiment dont l'origine remonte au Second Empire.
Il est très élégant, hein, avec cette verrière là.
Martine est accompagnée d'un agrégé d'histoire,
Michel Proméra,
qui connaît très bien les lieux.
Président d'une association à Vichy qui s'occupe de l'histoire des années 40-44. Au plan national et au plan local.
Alors, pourquoi commencer à Vichy une série consacrée aux déportés et à la libération des camps? Vous allez comprendre dans quelques instants, et c'est très important.
C'est l'entrée des artistes.
Notre reporter, Martine Abbat, et l'historien Michel Proméra sont attendus par le concierge de l'Opéra de Vichy.
Alors, où est-ce qu'il faut sonner?
Bonjour.
Je vous attendais, j'imagine que c'est pour le reportage, voilà. C'est pour vous.
C'est bien ça. Bonjour monsieur.
Je vous accompagne. C'était pour se prêter dans la salle?
Si possible.
Puis il se dirige vers le théâtre de cet ancien casino.
On passe
par les coulisses.
Les coulisses.
C'est dans cette salle de spectacle que le 10 juillet 1940, les parlementaires français ont voté les pleins pouvoirs à Philippe Pétain.
Waouh. Ah ouais, on passe par la Seine.
La Seine, voilà. Comme vous voulez, je sais pas si vous choisissez.
Ah, c'est bien dans la salle. À la place des parlementaires.
C'est par ce côté.
D'accord.
Allez-y, faites attention parce que c'est étroit.
Souvenez-vous, après avoir trouvé refuge à Tours, puis à Bordeaux, suite à l'entrée des troupes allemandes dans Paris le 14 juin 1940, le gouvernement français se replie à Vichy au début du mois de juillet.
Monsieur le Président.
C'est embêtant, Vichy. On va dire qu'il s'agit d'un gouvernement de casino.
Après la débâcle de l'armée française, Philippe Pétain a choisi de signer un armistice avec Hitler.
Français, l'armistice est conclu. Le combat a pris fin.
La France est à genoux.
La question qui se pose à ce moment-là, Pétain et son entourage, c'est qui est responsable. Et pour les gens qui entourent Pétain, pour Pétain lui-même probablement, pour Pierre Laval en tout cas, l'un des responsables, alors c'est pas l'armée évidemment, ça ne peut pas être l'armée, le responsable c'est le système politique. Et le système politique, c'est le système politique de la Troisième République, le régime parlementaire, accusé d'avoir dysfonctionné dans les années 30, d'aller de crise en crise, d'avoir été incapable de préparer le pays à la guerre. Bon, voilà, c'est ça l'accusation. Et donc, évidemment, dans les gens qui entourent Pétain, la conclusion est assez facile. Puisque c'est le régime qui a failli, il faut changer le système. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut faire une révision constitutionnelle. Et donc, Pierre Laval prépare une révision constitutionnelle. Il y a une espèce de quasi-unanimité pour dire oui, le système de la Troisième République n'a pas fonctionné correctement, il faut donc le modifier.
C'est ainsi que Pierre Laval soumet au vote des parlementaires français un article très explicite.
L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie.
Travail, famille, patrie.
Donc c'est cet article unique,
oui, l'article unique
qui est proposé au vote.
Il est proposé au vote, donc le jeudi 10 juillet après-midi.
Il fait chaud ce jour-là?
Il fait très chaud, effectivement, il fait très chaud, l'atmosphère est lourde, l'atmosphère est tendue.
Monsieur Laval, vice-président du Conseil.
On a des photos de cette...
On a une photo de la séance où l'on voit Pierre Laval à la tribune.
Donc face à nous.
Face à nous, là.
Sur la scène.
Sur la scène.
Nous sommes battus. Je ne crois pas qu'il y ait dans toute notre histoire un plus grand désastre.
Avec en arrière-plan le président du Sénat, Jules Jeanneney, qui préside la séance, et il a à ses côtés, ou sur un bureau voisin, Édouard Herriot, qui était le président de la Chambre des députés, qui est là également.
Il n'y a pas Pétain?
Ah non, Pétain ne vient pas à la séance. Mais la séance est relativement courte, hein. Elle a lieu en fin d'après-midi, vers 17h. Pierre Laval coupe court et fait procéder au vote quasi immédiatement. Il n'y a donc pas vraiment de débat.
Et personne ne se lève pour intervenir.
C'est non, pas le... effectivement. Et notamment, c'est que les grands leaders politiques de l'époque, c'est-à-dire ceux dont la voix pouvait avoir un écho.
Léon Blum.
Léon Blum se tait probablement parce qu'il sait que même s'il parlait, ça n'aurait pas d'effet. Parce qu'au sein même de son propre parti, une grosse partie des députés et des sénateurs socialistes lui sont hostiles. Il fait l'objet de menaces physiques contre sa personne, donc il se tait. Mais aussi Édouard Herriot, parce qu'il est président, enfin il est coprésident avec Jeanneney, et donc en tant que président, il ne veut pas prendre la parole. Mais aussi quelqu'un qui est aujourd'hui oublié, qui s'appelait Louis Marin, qui était un député lorrain, qui était le leader de ce qu'on appelait la Fédération républicaine, qui était la principale formation de la droite républicaine. Ben, ces gens-là se taisent.
Et donc, c'est un vote comment ?
Alors, c'est un vote ouvert, c'est-à-dire que ce n'est pas un bulletin secret. Il faut que les gens se prononcent, d'ailleurs pour cela qu'on sait qui a voté pour et qui a voté contre.
Vive la République, quand même !
Songez donc que nous sommes en état d'extrême urgence et que les Allemands sont à 50 km.
L'affaire est assez vite balayée. Les députés et les sénateurs présents passent au vote. Avec quel résultat ?
Officiellement, 569 députés et sénateurs approuvent le projet, 80 contre. Il y a aussi des abstentions.
Sachant que tous les parlementaires ne sont pas présents.
Alors, tous les parlementaires ne sont pas à Vichy. L'Assemblée nationale aurait dû compter 846 membres.
Donc il en manque à peu près 200.
Il en manque un peu moins de 200.
Ce sont des parlementaires qui sont où ?
Il y a beaucoup de catégories. Il y a d'abord un certain nombre de parlementaires qui étaient partis combattre, qui ne sont pas encore démobilisés. Il y en a qui ne peuvent pas venir à Vichy, tout simplement pour des raisons bêtes de transport. Il y en a d'autres qui sont interdits. 61 députés ou sénateurs communistes qui sont interdits depuis le mois de septembre 1939 en raison du pacte germano-soviétique.
Ça veut dire quoi, être interdit ?
Ben, ils sont déchus de leur mandat. Ils sont déchus de leur mandat. Seuls quelques députés communistes qui ont renié le pacte germano-soviétique vont pouvoir venir à Vichy. Il y en a 8 qui vont participer au vote. Mais la majorité des communistes ne sont pas là.
Dans la foulée du pacte germano-soviétique, signé entre Hitler et Staline et soutenu par le Parti communiste français, Édouard Daladier, président du Conseil, dissout le parti et exclut les parlementaires communistes de la République le 26 septembre 1939. Leurs mandats sont déchus, à l'exception de ceux qui ont renié le pacte. Et parmi les 8 députés communistes autorisés à siéger dans ce théâtre du casino de Vichy, le 10 juillet 1940, se trouvait Émile Fouchard, qui a confié ses souvenirs sur cette sinistre journée à Patrice Gélinet sur France Culture en 1989.
En arrivant au parc, en venant de la gare de Vichy, en arrivant au parc, j'ai été interpellé par quelqu'un qui faisait la circulation, c'était l'adjudant de gendarmerie de Chelles, et il m'a demandé qu'est-ce que j'allais faire. Évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de voter contre. J'ai toujours été un homme de gauche, j'ai toujours défendu la République, tant que j'ai pu et du mieux que j'ai pu. Et j'ai décidé de voter contre. Alors il m'a dit, mais ce soir vous serez arrêté. Tout le casino est cerné. Il est fort probable que tous les opposants seront arrêtés ce soir. Comme j'avais un peu l'habitude, puisque j'avais déjà été arrêté en 39, j'ai été acheter une petite valise, une brosse à dents, un pyjama, et puis je me suis préparé, après le vote, d'aller en prison.
Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain vous parle.
Quelques heures après ce vote du 10 juillet 1940,
Français.
Le vieux maréchal Pétain s'adresse aux Français.
L'Assemblée nationale m'a investi de pouvoirs étendus. Pour accomplir la tâche immense qui nous incombe, j'ai besoin de votre confiance. Vos représentants me l'ont donné en votre nom.
C'est donc ce qu'on appelle un coup d'État légal. Car par ce vote, le régime républicain est supprimé et Philippe Pétain exerce tous les pouvoirs. Alors pourquoi amorcer une série sur les déportés par le récit de ce vote au casino de Vichy? Eh bien parce qu'une fois la République liquidée, le maréchal décide de mettre en place sa politique de collaboration avec le Troisième Reich. Et l'une des conséquences très concrètes de ce choix assumé par Philippe Pétain, c'est la participation du régime de Vichy au phénomène de déportation.
Ce qu'on veut seulement, c'est qu'ils foutent le camp, tous et vite. Allez, on embarque.
C'est-à-dire que tous les déportés du territoire français, entre 1940 et 1944, l'ont été avec le soutien et l'appui du régime de Vichy. C'est crucial de le rappeler. Alors, commençons maintenant le récit de nos trois destins de déportés qui vont nous accompagner tout au long de cette série. Notre premier personnage s'appelle Edmond Michelet. Où est-il quand Philippe Pétain s'empare du pouvoir?
Edmond Michelet se trouve le 10 juillet 1940 à Brive, où il s'est installé avec sa femme 15 ans plus tôt.
Laurent Douzou est historien.
Il est courtier en alimentation. Le couple a 7 enfants et on peut dire que jusqu'alors, ils ont mené une vie assez intense. 7 enfants, c'est pas rien et il a un commerce à faire tourner, mais une vie sans histoire particulière.
Comment réagit-il à cet effondrement du régime républicain?
Il réagit très mal à l'effondrement, alors à la défaite de 40, puis à l'effondrement du régime républicain. Il voit bien les failles ou les tares de la Troisième République, mais le régime de l'État français qui se met en place à Vichy ne lui plaît pas du tout. Pour lui, c'est pas admissible. Ça fait un peu penser, parce que dans le refus de l'admission de ce nouveau régime, il y a quelque chose de sa foi catholique aux premiers chrétiens qui, confrontés aux Romains, qui leur disaient « si vous abjurez, on vous laisse la vie sauve », répondaient « non possumus ». Nous ne pouvons pas. Et Michelet, le 17 juin 1940, il est rigoureusement dans cet état d'esprit. C'est moins un refus fondé sur des causes idéologiques ou politiques à proprement parler qu'un refus éthique. Il y a des choses qu'on n'admet pas.
Lettre d'Edmond Michelet à Daniel Rops, le 19 août 1940. J'ai bien peur de ne pas partager entièrement votre admiration pour ce qui se fait à Vichy. De bonnes intentions, certes, mais l'enfer en est pavé. Pour ce qui est des décisions que vous jugez excellentes, je pense qu'elles auraient été bien davantage si elles semblaient moins dictées par le vainqueur. Pour tout dire, nous, c'est-à-dire le petit groupe que vous connaissez, continuons ici à miser à fond sur la victoire de l'Angleterre.
Messieurs?
Le petit groupe dont parle Edmond Michelet, ce sont essentiellement des chrétiens, sensibles à la question sociale et qui gravitent autour de Brive.
Voilà, ils arrivent.
En juillet 1940, Edmond Michelet a 40 ans. D'où vient-il?
Alors on a affaire à quelqu'un qui est issu d'un milieu relativement aisé. Son père était épicier chez Félix Petain à Paris, puis a migré à Pau. Il a eu d'assez grands succès dans son commerce, puis connu quelques revers. Le fils, lui, a emprunté à deux influences. Le père est républicain et dreyfusard et la mère est monarchiste. Et je pense qu'il a davantage pris de la mère que du père.
Demandez l'action française ! Demandez l'action française, mademoiselle !
Il a été action française jusqu'à la condamnation de l'action française par Rome en 1926. Et puis après, il a graduellement évolué vers le progressisme, notamment les équipes sociales de Robert Garrigue, qui est un mouvement non confessionnel, mais qui cherche à rapprocher les gens en les frottant les uns aux autres. Il a été aussi président de la jeunesse catholique de la Corrèze. C'est quelqu'un qui a de vraies aptitudes intellectuelles, mais il n'a pas pu vraiment les laisser s'épanouir parce que son père estimait qu'il n'y avait pas plus beau métier qu'épicier. Donc son père lui a fait faire un an de séjour en Angleterre pour qu'il puisse pratiquer l'anglais, mais il a eu le certificat d'études primaires. Il est allé au collège, mais pas jusqu'au bac, et très vite, il est entré dans la vie active. Donc vous voyez, c'est un milieu peut-être assez conservateur, en tout cas où la foi catholique joue un rôle absolument clé. C'est pas un milieu qui prédispose à l'évidence, à la résistance telle que lui va la pratiquer.
Son entrée en résistance est plus que précoce.
Alors il entre en résistance à un moment où la résistance n'existe pas. C'est ça qui est quand même assez fabuleux. Parce que le 17 juin 40...
Ici, Radio-Diffusion Nationale de l'État français.
Je savais bien que Dieu n'abandonnerait pas la France.
Il entend le discours fameux du maréchal Pétain qui annonce la demande d'armistice.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Il se demande ce qu'il peut faire, et donc le discours est à midi et demi, le discours de Pétain, et dans l'après-midi il réfléchit, et il pense à un de ses auteurs de prédilection qui est Charles Péguy, et il va prendre dans un texte de Péguy des phrases qu'il va accoucher sur le papier. Alors ces phrases, c'est pas n'importe quoi.
En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Il ne se rend point, c'est tout ce qu'on lui demande. Et celui qui se rend est mon ennemi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti.
Alors, ça c'est ce qu'il couche sur cette feuille de papier. Ensuite, par des amis des équipes sociales, il va faire imprimer ce tract, tout ça dans la journée et l'après-midi du 17 juin. Et avec des membres des équipes sociales, ils vont aller dans les boîtes aux lettres de Brive, glisser la nuit ce tract. Il va par ailleurs l'envoyer par la poste, évidemment, sans mention de la provenance, à des gens à Brive. Donc, vous voyez, ça, c'est son tout premier geste. Il est intéressant parce que il est antérieur à l'appel du 10 juin 1940. Ça montre bien qu'il y a en France des gens qui tout de suite énoncent un refus éthique très fort. Et c'est évidemment le cas d'Edmond Michelet.
Nous sommes donc devant le 4 de la rue Champanatier à Brive. La maison d'Edmond Michelet, mon père.
Archive ORTF, 1974.
C'est de cette maison qu'est parti le 17 juin 40, je pense, le premier tract de la résistance. Il était tiré de l'argent de Péguy. Je pense qu'il est possible, alors en quelques secondes, de trouver dans cet extrait de Péguy un portrait assez vivant de mon père et assez complet, en ce sens qu'il était assez universel pour concevoir une foule d'amitié qui semblait n'avoir aucun rapport entre elles, et qui pourtant se concrétisait autour de lui, justement parce que mon père, en tant que chrétien, humaniste et résistant, je pense, s'est quand même toujours considéré un peu en guerre, c'est-à-dire que de tout temps, il a voulu combattre.
Ce courtier en alimentation commence donc par rédiger et distribuer des tracts contre Vichy et l'occupant. Et puis, au fil des mois, ses responsabilités s'étoffent. À partir de l'année 1942, les activités résistantes d'Edmond Michelet se diversifient et s'intensifient.
Voilà les papiers et certificats de baptême.
Il fabrique des faux papiers avec sa femme, il pratique le sabotage, il cache des enfants juifs.
Je peux pas m'appeler Henri, je suis fier d'être juif.
Et par ailleurs, il est devenu chef de la région R5 du mouvement combat.
Très vite, il est dans le cœur de cible des Allemands qui ont envahi la zone sud le 11 novembre 1942. Et il y a plusieurs alertes. Il y en a une le 2 février 1943, il y a une grande réunion des agents commerciaux qu'il préside et les Allemands viennent l'arrêter.
Ils arrêtent là. Police allemande, vous avez une réunion ici. L'autre square.
Mais il le relâche le soir même parce que l'arrêter alors qu'il était dans cette réunion qui avait pignon sur rue, c'est difficile. Henri Fresnel, le chef du mouvement combat, l'adjure de quitter Brive et d'aller dans la région de Montpellier, ce qui irait très bien parce que Pierre-Henri Tedjène y est grillé. Et Michelet refuse. Il refuse parce qu'il a charge de famille, parce qu'il s'intéresse beaucoup au commerce qu'il a à Brive. Bref, il refuse. Et le 25 février 1943, alors que sa femme et lui quittent leur domicile au petit matin, il est arrêté par les Allemands. C'était à peu près inévitable compte tenu de tous les risques qu'il prenait.
Ses amis lui disaient toujours, ne parle pas autant, fais attention, tu verras venir la Gestapo, tu devrais changer de région, tu devrais partir. Nous avons fait deux fois nos malles pour le Portugal.
Témoignage de Marie Michelet, 1988.
Et deux fois, au moment de partir, il m'a dit, c'est impossible, nous ne pourrons pas abandonner la France, je n'arriverai jamais à Londres, nous allons rester.
Jusqu'au jour où le malheur, en quelque sorte,
s'est abattu. Jusqu'au jour, oui, où la Gestapo est arrivée, en 25 février 43, matin, à 7h30, au moment précis où nous partions pour la messe. Ils sont entrés dans le bureau, ils ont arrêté mon mari, ils m'ont menacé avec leur mitraillette parce que je voulais appeler la sous-préfecture, pensant que le sous-préfet pourrait encore nous sauver. Ils m'ont arraché des mains le téléphone. Ils m'ont menacé vraiment de me tuer.
Alors il va être arrêté et puis il va être surtout passé à tabac assez vite, Laurent Douzou.
Alors, il est emmené à l'hôtel Terminus de Brive. Il y est passé à tabac. De façon intéressante, il n'a jamais donné le moindre détail, non seulement sur ce moment où il est manifestement tabassé, mais plus tard, quand il sera à Paris, qu'on l'emmènera à 84 avenue Foch, qui est le siège des services de sécurité allemands, là où Pierre Brossolette sera torturé et mettra fin à ses jours, ou rue des Saussets. Mais il en parle, il dit qu'il est allé dans ces endroits, mais sans jamais faire mention des traitements qu'il a subis. Ce qui est très clair, c'est qu'il a subi des traitements très brutaux, au minimum. On a exercé sur lui aussi des pressions psychologiques. Très vite, on lui a dit « Mais votre femme, vos deux filles, votre fils sont arrêtés et votre attitude est dangereuse pour leur sauvegarde. » Donc vous voyez, je crois qu'il a très vite été confronté à la dureté de la répression.
À quelle organisation appartenez-vous ?
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Vous savez ce que vous risquez.
D'une certaine façon, il a continué à jouer la carte de l'honorable commerçant qui ne comprend rien à ce qui se passe, qui n'est intéressé que par la bonne marche de son commerce et par sa famille, de sorte que les Allemands n'ont jamais réussi à établir une liaison claire entre Edmond Michelet qu'ils avaient sous la main et Duval, son pseudonyme, son nom de guerre comme chef de la région R5 de combat.
Résistant très actif, mais arrêté par la Gestapo, Edmond Michelet s'apprête à être déporté dans un camp allemand.
Et où est-ce qu'il les emmène ?
Le maréchal va parler à la radio, venez vite !
Venons-en maintenant à notre deuxième personnage. C'est une jeune femme qui, comme Edmond Michelet, va connaître le destin tragique de la déportation politique. Elle s'appelle Gisèle Guillemot. D'abord, qui est-elle quand Philippe Pétain récupère les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940 ?
Alors, elle est jeune, elle a 18 ans, et elle vit à Mondeville, près de Caen, chez ses parents.
L'historien Fabien Archambault.
Alors, Mondeville, hein, c'est les quartiers ouvriers de la banlieue de Caen, qui sont situés sur la rive droite de l'Orne. Donc, il y a Mondeville, il y a Colombelle et il y a Giberville. Donc, en gros, elle vit dans ce quartier-là, qui est un quartier très ouvrier. Elle est sténodactylo, au service du ravitaillement, depuis un an. Et à Mondeville, elle vit à côté d'une grosse usine qui a 6000 ouvriers, où son beau-père est comptable.
Son père biologique est un immigré italien, ouvrier venu en France comme main-d'œuvre après la Grande Guerre. Mais très vite, il disparaît dans la nature. Et Gisèle Guillemot, née en 1922, grandit en Normandie, où elle est élevée par sa mère et son beau-père.
Bonsoir maman, bonsoir chérie.
Mais Gisèle sait très bien qu'elle est une fille d'immigrés. Qu'est-ce qu'on peut dire de son milieu social d'origine ?
On est en terre catholique, plutôt conservatrice, et ça fait pas exception, hein, puisqu'on a en gros un milieu de petits employés qui sont pas spécialement politisés, et s'ils sont politisés, enfin, en gros, hein, ils votent à droite. Mais Gisèle, c'est une forte tête, et elle se politise à l'occasion du Front Populaire en 1936.
Vive le Front Populaire !
Vive le Front Populaire !
Donc elle a 14 ans, donc à ce moment-là, elle a quitté l'école primaire et elle prépare le diplôme de sténodactylo. Et pour ça, elle suit des cours complémentaires qui seraient en gros l'équivalent du collège aujourd'hui, mais pas à Mondeville, à Colombelle, la commune juste à côté, à l'école Henri Cellier, où les cours complémentaires sont assurés par le couple Porquier, qui sont des militants de la pédagogie Freinet. Une pédagogie qui veut être adaptée aux milieux populaires qui n'ont pas la culture familiale pour avoir été bercés de culture classique depuis qu'ils sont petits. Et donc, elle apprend la littérature, elle découvre le théâtre à ce moment-là, et aussi la politique, puisque, en gros, elle le dit après, il y a des cours d'histoire, et on lui dit que depuis le début de l'humanité, il y avait toujours eu des dominants et des dominés, et que rien, jamais, n'avait été gagné sans lutte. Alors, c'est là où elle en est quand débute le Front Populaire, et c'est vraiment l'enfant de cette nouvelle culture politique.
Tous ensemble, nous ferons reculer le fascisme.
Donc, il associe deux choses principalement. D'abord, l'antifascisme. Et ensuite, le Front Populaire, c'est la politisation de catégories sociales qui ne l'étaient pas jusque-là, du fait qu'elles n'avaient pas accès au vote. Politisation qui se fait à travers les grandes manifestations du Front Populaire ou la grève. Dans une assemblée générale de grève, les immigrés, ils peuvent voter. Les femmes qui n'ont pas le droit de vote aussi, et leur voix compte autant que les travailleurs hommes. Et les jeunes qui travaillent à partir de 13 ans et qui n'auront pas le droit de vote jusqu'à 21 ans. Et c'est qui Gisèle Guillemot en 1936-1937 ? C'est une jeune femme, fille d'immigrés. Et donc elle s'identifie totalement à cette nouvelle culture politique.
Mais laisse-moi !
Mais attends un peu, t'as le temps, ça vient de commencer.
Mais tu penses que c'est presque fini, moi je veux voter.
À contre-courant de sa culture politique familiale, la jeune Gisèle Guillemot poursuit son chemin personnel.
Alors, progressivement, elle se rapproche même du Parti communiste, puisqu'elle le dit, le monde, c'est une lutte, mais il me manquait les clés pour me situer du côté des lutteurs. Et c'est un peu par hasard, au printemps 1937, donc dans les dernières semaines du Front Populaire, elle se promène à Ouistreham, qui est un petit port de pêche sur la côte normande, et elle tombe sur un meeting de Paul Vaillant-Couturier, le directeur de l'Humanité, député de Villejuif, celui qui voulait que les communistes exercent le ministère des masses pendant le Front Populaire, donc soutien sans participation, et il l'exerce avec les pêcheurs de Ouistreham.
Vous allez entendre Vaillant Couturier, membre du comité central du Parti communiste. Deux mondes, le monde capitaliste, le monde socialiste. Le monde à l'envers, le monde à l'endroit.
Et elle est éberluée par ce discours, et donc en gros pour elle, cet engagement politique qui permettra de préciser cette atmosphère du Front Populaire, ce sera avec les communistes et notamment Paul Vaillant-Couturier qui meurt quelques mois après.
Lorsque la guerre éclate en septembre 1939, Gisèle a 17 ans. Elle vit donc en Normandie. Elle est sténodactylographe, proche du Parti communiste.
Ça bombarde sur la Meuse.
En mai-juin 1940, les troupes de la Wehrmacht franchissent les Ardennes et très vite, ils prennent possession du territoire national avec occupation de la zone nord. Quelle fut la réaction des habitants du Calvados face à l'arrivée et à l'installation des Allemands en Normandie ? En 2001, Gisèle Guillemot s'en souvenait très bien.
gens du Calvados sont plutôt un peu réactionnaires, ça, bien sûr, comme une grande partie des départements de l'Ouest, mais je ne pense pas qu'ils aient accueilli avec grande joie ces occupants. Ce qui est certain, c'est qu'ils étaient pétinistes, comme tout le reste des Français, je pense. Dans un premier temps, ça a été les Farmans, comme partout en France, et puis après, les Normands ont vu une occasion de tirer quelques profits de ces événements et ont vendu leurs produits avec un certain plaisir, beaucoup plus cher qu'aux habituels acquéreurs.
Qu'est-ce que vous voulez ? Le français, il s'est régalé pendant 20 ans. Eh bien, c'est le moment de passer à la caisse.
Et on peut dire que s'il y a eu une collaboration dans le Calvados, elle a été beaucoup plus économique que profondément politique, je crois.
Et 6 qui font 10.
Et alors, comment a réagi Gisèle Guillemot suite à l'instauration du régime de Vichy ?
Alors, c'est une réaction qui n'est pas isolée, bon, qui est loin d'être majoritaire dans la population française, hein, de refus. De dire c'est inacceptable. Elle fonde un petit mouvement de résistance, mais comme il y en a beaucoup. Donc il faut faire la distinction toujours entre les réseaux de résistance qui sont militaires et au début des mouvements qui sont là pour faire de la politique, c'est-à-dire faire de la propagande anti-Vichy et anti-allemand.
Ça veut dire des tracts, des affiches.
Voilà, c'est ça. Donc elle fait ça avec un groupe de copains du quartier. Donc ils sont 6.
Et pourquoi on n'essaierait pas de se joindre à un réseau qui fonctionne déjà ? Il y a sûrement des résistants en ville.
Et pourquoi est-ce qu'on irait s'associer avec des vieux ? En quelques temps, on en fera autant qu'eux, plus même.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette culture du Front Populaire a pu faciliter le passage à l'acte, on va dire, à l'engagement dans une forme de résistance, même si elle est limitée, même si elle est quasiment un peu potache au début. Enfin, c'est comme ça que Gisèle le vit. Chez les communistes, hein, il y a l'idée qu'on a réconcilié la République et la Révolution. Le drapeau rouge et le drapeau tricolore, la Marseillaise et l'Internationale. Et donc, il y a la défense de la patrie. La patrie qui est la République sociale, mais comme la République est tombée, et bien à ce moment-là, on va la défendre. Donc c'est nouveau en fait pour les communistes, hein, cet attachement à la patrie qui pour eux est la continuité d'un combat antifasciste et qui, en gros, les deux se marient bien. Donc voilà, ça explique que, voilà, elle fait des tracts à l'esténodactylo, donc elle sait les faire. Alors les choses changent, hein, à partir de 1941, quand l'opération Barbarossa conduit de facto à l'entrée en guerre de l'URSS.
L'opération Barbarossa, c'est le nom donné par Hitler à la tentative d'invasion de l'URSS par la Wehrmacht.
Le Parti communiste crée un mouvement de résistance, le Front National, et sa branche armée, et donc un réseau de résistance, la militaire, qu'est les francs-tireurs et partisans. Et on demande à Gisèle Guillemot, enfin on l'a repéré, dans le quartier, on la voit distribuer les tracts à la sortie de l'usine, si elle veut faire partie de ce Front National, et elle accepte. Donc elle est responsable départementale alors du Front Patriotique de la Jeunesse, qui est l'organisation de jeunesse du Front National, et elle est agent de liaison. Elle se balade de Bayeux à Lisieux, de Vire à Deauville.
Vous pouvez passer, mademoiselle.
Merci, monsieur.
En bicyclette.
Au revoir.
Avec ses sacoches, où il y a des faux papiers.
Allez-y, mademoiselle.
Où il y a les instructions, où il y a le Calvados libre, puisqu'il y a le journal du Front National du Calvados. Là aussi, c'est ses compétences de sténodactylo qui sont mises en œuvre. Et bah, elle assure, en gros, toute la logistique autour des opérations de sabotage. Donc c'est un petit groupe, hein, ça doit être entre une cinquantaine et une centaine de personnes sur le Calvados, tous des communistes. Et donc ce groupe, hein, est peu nombreux, mais efficace, en lien avec des employés de la SNCF. Puisque le 16 avril et le 1er mai 1942, ils arrivent à faire dérailler des trains qui sont pleins de permissionnaires de la Wehrmacht sur la ligne Paris-Cherbourg. Il y a 40 morts. Et donc, c'est un des premiers coups portés à l'armée allemande de aussi important. Ce qui provoque la fureur du commandement militaire allemand dans la zone nord, qui les traque. Il faut retrouver les responsables du sabotage des reins. Et c'est une traque qui va durer un an.
Asseyez-vous.
Dans cette traque organisée par la Gestapo, on finit par arrêter plusieurs personnes. et certaines d'entre elles, violentées, voire torturées, donnent le signalement de Gisèle Guillemot. On se lance à sa recherche et arrive alors le 9 avril 1943.
Je travaillais le matin en ravitaillement général parce que dans mon organisation, on n'avait pas l'argent de Londres. Il fallait bien se débrouiller pour survivre et je travaillais donc le matin. Si j'étais venue l'après-midi, j'aurais eu une petite chance. Donc un de ceux qui avaient parlé est venu avec le gestapiste. Ils ont fait tous les bureaux. À chaque fois, naturellement, ce jeune garçon disait non, non. Et puis à un moment, il a dit c'est elle. Il avait 18 ans. Il n'est pas vraiment tellement coupable de mon arrestation. Je veux dire que je ne lui en veux pas. Il a quand même été fusillé. Donc, on était arrêtés à 25. Il y en a un qui s'est évadé. Il y en a 4 qui ont vraiment parlé. Sur ces 4, 3 ont été fusillés. La femme a été libérée. Quand on les a rencontrés au cours du procès, on a vraiment réalisé qu'ils avaient perdu complètement leur libre arbitre. Ils étaient morts de peur. On aurait pu leur faire n'importe quoi. Et dans le fond, je les comprends parce que moi aussi, j'ai eu très peur à mon arrestation. C'est le moment le plus difficile, c'est l'arrestation. Et compte tenu que 4 personnes avaient parlé, je ne pouvais pas imaginer qu'ils aient parlé comme ça, tout à fait gratuitement. Et je me suis dit qu'ils avaient certainement été torturés. Et c'est sûr que j'ai eu une panique terrible pendant quelques heures. Et quand on résiste à ces premières heures, après, c'est plus facile, on s'organise. Parce que c'est curieux, on sait qu'on va être arrêté à un moment ou l'autre, mais on ne prépare pas cette arrestation. Et quand on arrive là, on est complètement démuni. Et si on résiste aux interrogatoires, après, je pense que ça va tout seul. D'une certaine façon, je me disais, advienne que pourra, maintenant c'est fichu, je suis dans leurs mains. Ils peuvent me tuer, mais bon, tant pis, j'ai choisi cette route. Et donc on arrive à une sorte de détachement, oui, voilà, c'est le mot peut-être, oui.
Tu connais les camps d'internement ?
Non, monsieur, j'y suis jamais allée.
Eh ben, tu vas y aller y crever.
Alors, on est le 9 avril 1943. Donc elle est emmenée par la Gestapo, qui l'arrête, hein, c'était une opération conjointe, police française et Gestapo. Elle n'est pas torturée, elle est interrogée, on va dire, virilement. Donc elle prend plein de gifles, hein, puisque en gros, elle prend le parti de ne rien dire.
Tu finiras par parler.
Avec toujours hein, l'insolence qui la caractérisera jusqu'au bout. Donc par exemple, hein, le gestapiste, qui l'interroge, hein, lui dit « Je n'ai pas l'habitude de battre les femmes, mais tu m'énerves vraiment. » Elle lui répond « Si ce n'est pas une habitude, vous êtes doué. » Ce qui lui vaut une nouvelle gifle. Elle est emprisonnée à la prison de Caen, le soir même, hein, et elle fout le bordel dans la prison, hein, en tapant contre la porte. Hein. « Je suis une communiste, je vous hais, sale fasciste, et je suis sûr que vous perdrez la guerre. »
Notre troisième et dernier personnage s'appelle Denise Kahn. Elle est alsacienne, juive, née en 1927. Mais au printemps 1940, devant l'avancée des Allemands, elle a dû quitter précipitamment sa région natale avec toute sa famille. Qu'est-ce qu'on peut dire de ses origines sociales ?
Alors Denise Kahn, c'est intéressant parce qu'en fait, elle représente ce qu'on appelle parfois le judaïsme alsacien.
L'historienne Zoé Grimbert.
Donc en fait, c'est une famille qui est présente en Alsace depuis plusieurs générations. Le père, notamment, il naît dans ce village-là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce village, qui s'appelle donc Schierhofen, est un village qui, historiquement, était constitué d'énormément de familles juives. Parce qu'après la Révolution française, la France a émancipé les juifs en 1791. Et de nombreux juifs allemands sont venus en Alsace. Certains se sont installés, notamment dans ce village-là. Et cette famille, donc, c'est une famille qu'on pourrait qualifier, oui, vraiment de représentante de ce judaïsme alsacien, dans le sens où c'est une famille qui, sur le plan des croyances et des pratiques, est une famille traditionnelle, qui se rend à la synagogue, qui fait Shabbat, qui fait toutes les grandes fêtes juives, dans un village où, à l'époque, ils ne sont plus qu'une minorité de juifs. Mais la famille continue ces pratiques-là, elle est très bien insérée dans ce village-là. Denise raconte qu'elle n'a jamais vécu d'antisémitisme, que à Pessar, par exemple, la vingtaine de juifs du village distribuent des matzot, donc c'est du pain non levé, aux voisins chrétiens, qu'à chaque Shabbat, un voisin chrétien vient allumer les lumières et faire le feu, puisque les juifs n'ont pas le droit de le faire. C'est ce que Denise appelle le goy du Shabbat. Donc sur le plan des croyances, voilà, c'est très traditionnel. Et sur le plan du métier, le père est donc marchand de bestiaux. Et le marchand de bestiaux, c'est une figure des métiers juifs traditionnels d'Alsace, pour une raison historique qui était que les juifs n'avaient pas le droit dans ces territoires de posséder la terre, donc de cultiver notamment, et donc ils se sont engagés dans ce type de métier-là. Donc voilà une famille qui représente ce judaïsme-là, qui n'est pas modeste, qui n'est pas riche non plus, qui a un certain nombre de domestiques pour les aider avec le ménage notamment et avec les bêtes, parce que c'est un métier très prenant. Mais voilà, une enfance globalement très heureuse, dont Denise a d'excellents souvenirs et que toute sa vie, elle a chéri.
J'étais toujours très contente. Je crois que je me suis toujours amusée avec mes frères. Je jouais au football. J'avais toujours les genoux abîmés.
Témoignage de Denise Kahn, 2006.
J'avais 12 ans quand la guerre a commencé, donc en 1940. On est parti de Schirhofen et on devait d'abord partir dans la zone libre.
Malheureusement, la famille Kahn échoue à passer en zone sud. Et au moment où Philippe Pétain annonce à la radio sa prise de pouvoir, Denise et les siens se sont réfugiés chez une tante qui vit à Paris. Alors que ressent cette petite fille de 13 ans en 1940 ?
Denise raconte un double sentiment. Un sentiment de peur, évidemment, une famille juive dans un Paris occupé. Donc la peur est présente chez toute la famille. Mais chez elle, c'est aussi un grand sentiment de liberté et de découverte. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle va raconter dans son témoignage qu'après la vie dans un village, elle découvre les grands boulevards, les musées, la vie culturelle parisienne.
À ce soir !
Et donc, ça signifie qu'elle continue à avoir une vie. Et donc, si on revient sur la trajectoire de cette famille et comment c'est possible. Cette famille, elle arrive d'abord chez cette tante. Donc, boulevard Sébastopol. Très vite, ils déménagent pour trouver un logement indépendant dans le 10e arrondissement de Paris. Denise et son jeune frère André vont tous les deux fréquenter le lycée. Les deux grands frères, en revanche, vont devoir travailler un peu pour rapporter un peu d'argent à la maison parce que Suzanne, la maman, est au foyer et le père est marchand de bestiaux, donc il ne trouve pas de travail à Paris. Mais la famille n'est pas dans la misère parce que leur statut est celui d'une famille de réfugiés, réfugiés d'Alsace. Et ce qu'il faut savoir, et ça a été notamment étudié dans une thèse d'une historienne, Hilarie Andin, c'est que les réfugiés d'Alsace touchaient un pécule de la part de Vichy. Il y avait une commission des allocations pour les réfugiés qui était prise en charge par les municipalités. Et la municipalité d'origine de la famille leur verse cette petite allocation qui leur permet de vivre chichement, mais de vivre tout de même avec l'aide des grands frères. La question, c'est est-ce que les Juifs continuent à toucher cette aide ? On sait que jusqu'en 1943, c'est le cas. Denise n'a pas l'air d'évoquer à un moment donné où cette aide s'est arrêtée. Mais en tout cas, la famille vit. Denise est celle qui a la vie peut-être la plus... celle d'une jeune fille de son âge. Ses parents restent globalement beaucoup à la maison. Le père fréquente la synagogue. Denise, en revanche, précise qu'elle a beaucoup d'amis non-juives à l'école. Et donc, elle va, avec ses amis, aller à la piscine. Donc on imagine bien qu'elle le fait alors que c'est interdit. Mais elle le précise très souvent, c'est une jeune fille blonde qui passe inaperçue et donc qui parvient à mener un semblant de vie normale malgré cette peur omniprésente pour la famille.
C'est pour l'étoile.
En juin 1942, cette vie presque normale est percutée par l'obligation imposée aux Juifs de la zone nord de porter une étoile jaune. Qu'en est-il pour Denise Kahn ?
Bien sûr qu'on a porté l'étoile, mais souvent je la cachais. Et comme je n'avais pas le type vraiment juive, hein, personne ne me croyait que j'étais vraiment juive, parce que j'étais très blonde, avec plein de boucles.
Comme une arienne,
exactement, voilà.
L'étoile juive est une étoile à six pointes. Elle est en tissu jaune et porte en caractère noir l'inscription « juif ».
Et la famille envisage en 1942 de fuir en zone libre. Mais malheureusement, au moment où ils allaient mettre en œuvre ce projet, le passeur qui devait les aider a renoncé. Donc la famille a renoncé à ce passage en zone libre.
La famille Kahn continue donc de vivre à Paris et finit par se faire arrêter, sans doute sur dénonciation, le 7 mars 1944.
Donc déjà, la date interroge. 7 mars 1944, c'est très tard. Ce que ça montre, et ça a été étudié très récemment par une historienne, Johanna Lehr, c'est qu'à Paris, la persécution des Juifs a continué, jusqu'au moment de la libération, en fait. Jusqu'en août 1944, on continue à arrêter des Juifs et à les envoyer à Drancy. La famille Kahn, comme un certain nombre de familles, est restée à Paris. Là aussi, ça interroge. Ça signifie qu'on peut continuer à mener une vie à Paris sous son vrai nom, puisqu'ils portent l'étoile, ils ont leur vrai nom, et à une adresse connue. Au moment de la libération, il y a encore 27 000 juifs à Paris, donc ils font partie de ces juifs qui sont restés à Paris. Pourquoi ils sont arrêtés? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. En tout cas, ils sont arrêtés le 7 mars 1944. On frappe à leur porte. Qui frappe à leur porte? La police française. Ils sont rassemblés avec d'autres juifs arrêtés, mis dans un fourgon de police et envoyés à Drancy.
Au risque de me répéter, vous avez droit à 2 jours de vivre, pareil en vêtements, etc., etc. Dépêchez-vous.
Et comment ça s'est passé, l'arrestation?
Ah ben, on est venu le matin, je crois 7h le matin.
Allez là!
On était obligé de prendre quelques vêtements, quelques biens, et puis tout laisser, on est parti tous les 6. On nous a transportés à Drancy, que là-bas on est resté 3 semaines. Je crois 7 mars jusqu'au 27. Je crois que c'était la nuit la plus terrible, là, parce qu'on savait qu'on allait être transportés, donc... Et on ne savait pas où on allait, quoi.
En conclusion de ce premier épisode, retenez d'abord que le choix de Philippe Pétain d'entrer en collaboration avec le Troisième Reich a ouvert la voie à un système de déportation massif et funeste. Les nazis et le régime de Vichy traquaient donc les mêmes personnes. Ensuite, ayez en tête que nos 3 personnages sont très différents. Un catholique fervent, père de famille à Brive, une communiste militante, fille d'immigrés en Normandie, et une adolescente juive qui découvre Paris sous l'occupation. 3 profils très différents, et pourtant, ces 3 destins vont connaître le même sort, celui de la déportation. Après leurs arrestations, Edmond Michelet, Gisèle Guillemot et Denise Kahn vont affronter un voyage que tous les déportés ont subi, à l'instar de Fernand Botté, un déporté de la ville de Meaux.
Parti de Compiègne le 2 juillet, arrivé à Darao le 5 juillet. C'était terrible dans ces wagons sans eau, sans air. Nous avons souffert atrocement. Les camarades sont devenus fous, se sont roués sur les autres camarades, les tuant à coups de couteau, étranglant les autres, enfin toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer.
Comment nos 3 déportés ont-ils vécu leur voyage forcé vers les camps de concentration nazis? C'est l'horizon du prochain épisode. Les Déportés, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Reportage, Martine Abbat. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Prochain épisode, La Déportation. Les Déportés est un podcast original de France Inter.